Bonjour et bienvenue sur No Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'anonymisation et de pseudonymisation avec Jean-Philippe Gaulier. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour.
Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement à nos auditeurs ?
Oui, Jean-Philippe, je suis RSSI dans un grand groupe et puis mon travail au quotidien, c'est essayer de m'occuper de la sécurité des données qui nous sont confiées.
Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Nicolas Ruff.
Bonjour.
Et moi-même, Johan Uloa. Alors Jean-Philippe, tu viens de réaliser donc une présentation sur l'anonymisation et la pseudonymisation de données le 26 janvier à Talence, donc c'est à côté de Bordeaux, à une conférence qui s'appelle Aquitaine. C'est bien ça, Jean-Philippe ?
Oui, tout à fait. C'est une conférence organisée par la société Tetris, en partenariat avec l'école d'ingénieurs locale, l'ENSERB Matmeca, qui a une option en sécurité depuis de nombreuses années. Je crois que ça remonte à 1999, donc ça fait un moment qu'ils font de la sécu. Et puis la société Tetris, c'est une société cofondée par Laurent Houdot, qui est bien connu des gens de la sécurité en France, et qui travaille sur des questions de SOC. Et là, Laurent, avec le vivier local, avait envie de proposer une conférence à la région. Et ils ont pu monter une après-midi de conférence avec des gens de l'ANSI local par exemple, des gens de chez Tetris, des gens du CEA, moi-même, d'Airbus, Defense and Space, et puis une table ronde. Donc une après-midi bien fournie.
Le Clusier Aquitaine également.
Alors le Clusier Aquitaine est intervenu, le président du Clusier Aquitaine est intervenu pendant la table ronde.
D'accord. Donc, alors, ta présentation sur l'anonymisation, il s'agit de quoi ?
Alors, il s'agit de travaux que j'ai effectués dans le cadre de mon travail, qui s'inspirent de travaux d'une autre personne que vous connaissez sûrement, hein, qui s'appelle Patrick Chambet, qui avait, en 2011, publié ses travaux sur l'anonymisation quand il était chez Bouygues Telecom. Et partie de cette présentation que j'avais vue il y a très longtemps, j'ai commencé à creuser et à réfléchir avec tout un tas de collègues sur comment on pouvait industrialiser, nous aussi, ce genre de solution pour toutes les données hors production. Alors pourquoi hors production ? Si on commence à anonymiser des données en production, ça ne sert plus à grand-chose, elles ne sont plus très utiles. Puisque l'anonymisation, en fait, c'est la perte du caractère identifiant, la perte de ce qui relie l'individu à la donnée.
Et donc ?
Alors, avant de parler d'anonymisation et de pseudonymisation, il faut avant tout parler d'identité. Chaque individu a une identité, donc moi c'est Jean-Philippe Gaulier, ceux qui me suivent sur Twitter savent que c'est plutôt le lapin de Big Bug Bunny. On peut avoir des avatars, etc. Vous pouvez avoir une adresse mail, vous pouvez avoir une wishlist sur Amazon, tout ça ce sont des identités, puisque ce sont des connexions qui se relient à vous, ce sont des usages que vous faites, ce sont des avatars qui vous permettraient de vous représenter quel que soit l'environnement où vous êtes. Et dans ces identités-là, il vient se mêler ce qu'on appelle le big data, hein, cet ensemble de données-là qu'on rassemble, que les OTT, les over the top, les Google, Amazon, Facebook et autres accumulent, croisent, pour essayer de tirer la substantifique moelle de qui vous êtes, de ce que vous voulez, ce que vous recherchez, de vous proposer de la pub ciblée, et d'essayer de trouver des choses à vous vendre. C'est un exemple hein, parmi tant d'autres, parce qu'on peut faire d'autres choses. Et j'ai essayé de faire prendre conscience à l'auditoire que pouvait être cette donnée personnelle, et comment, du coup, on pouvait l'anonymiser. Alors, une des choses qui a été un petit peu différente, je crois que c'est la première conférence, en tout cas, où moi j'ai eu l'occasion de faire ça, c'est que, en commençant, j'avais repéré un piano à queue dans l'amphithéâtre, Et donc j'ai, après une brève introduction d'une minute, j'ai interrompu ma conférence en demandant l'autorisation d'aller jouer du piano. Et j'ai essayé de faire comprendre ce qu'était l'anonymisation et la pseudonymisation en jouant quelques airs et en faisant participer l'auditoire.
Alors est-ce que tu pourrais essayer de reproduire ça pour nos auditeurs ?
Donc premier morceau, est-ce que vous reconnaissez ceci ?
Pas du tout.
Deuxième morceau. Et là, alors, le deuxième morceau, c'est ?
Ah bah, c'est Au clair de la lune.
Voilà, et ben, le premier morceau, c'était également Au clair de la lune. Simplement, il y a eu une transformation dont j'avais la clé et qui me permettait de passer d'une transformation à, enfin, d'un morceau à l'autre. Et en ayant cette connaissance-là, moi, je gardais la possibilité de retrouver la matière initiale. Bah, ça, c'est une pseudonymisation. Puisque je fais une transformation, vous ne reconnaissez pas la donnée, mais j'ai la possibilité de revenir au morceau initial. Et par contre, sur ce nouveau morceau que je vais vous jouer... Est-ce que vous reconnaissez ? Non, vous ne reconnaissez pas. Et ben voilà, c'était Au clair de la lune, totalement anonymisé. Bon, on espère qu'avec cette démonstration, vous comprendrez facilement ce qu'est anonymisation et pseudonymisation.
C'est beaucoup plus clair maintenant.
Félicitations d'avoir apporté un piano dans le podcast, c'est quand même.
Ouais, c'est, on réfléchira si on ne peut pas ajouter un peu de musique à l'entre. Bon, et maintenant, revenons-en à ces questions de données. Si je vous dis le trône de fer, est-ce que vous connaissez ? Game of Thrones,
ah, oui.
Pour un... Oui, vous connaissez. Bon, maintenant, si je vous demande, est-ce que vous avez un abonnement à Orange Cinema Series ? Ou OCS en abrégé ?
Non, c'est pas disponible en Suisse, désolé.
Eh bien, Nicolas, si tu étais en France et que tu me disais « Je connais Game of Thrones, j'ai vu l'intégralité des 6 saisons et je n'ai pas OCS », ce qu'on pourra en déduire, c'est que tu as illégalement téléchargé toutes les saisons, puisque le seul fournisseur, hein, c'est Orange Cinema Series. Et avec cette collecte d'informations, je viens de croiser, sans en avoir la connaissance, hein, deux informations qui font que je sais que tu as commis un acte délictuel. Donc on voit que le croisement d'informations peut révéler des choses sur les personnes. Et bien souvent, on a du mal à comprendre ce qu'est une donnée personnelle, parce que la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, et l'Europe, hein, avec le fameux règlement européen sur la protection des données personnelles, le GDPR, No Limit Sécu a apporté l'information dans un podcast très intéressant, traite de toutes les informations qui sont reliées à un individu et essaye de protéger toutes les manipulations sur ces informations-là. Donc, si on prend une donnée personnelle, est-ce que vous pouvez me dire pour vous ce qu'est une donnée personnelle ? Johan ?
Les données qui font un lien avec une personne qui servent à identifier une personne.
Ouais, tu as des exemples ?
Un nom, un prénom, une date de naissance, un numéro de téléphone.
Ouais, tout à fait.
Numéro de carte bancaire.
Ça, ce sont les données qui ressortent le plus souvent. Et où, effectivement, il y a une liste à peu près finie donnée sur le site de la CNIL qui tendent à dire, bon, ben voilà des données, l'adresse IP aussi, par exemple, qui est souvent discutée, qui tendent à dire, ça, c'est une donnée personnelle. Mais la donnée personnelle, d'après la CNIL, c'est toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable et qui peut être identifiée directement ou indirectement. Et c'est ce indirectement qui est important. Parce que si vous pouvez identifier indirectement, eh bien, là, on a affaire à une donnée personnelle.
Donc ton petit lapin blanc, c'est une donnée personnelle.
Ça pourrait être considéré comme une donnée personnelle. Le jour de la conférence, il y avait un étudiant qui portait un pull rouge vif à capuche. Un seul, hein. Tous les autres avaient des chemises, des costumes, des pulls d'autres couleurs, etc. Mais il y avait une seule personne avec un pull rouge. Et donc, dans l'ensemble de ces 200 personnes, j'ai dit, il y a une personne qui porte un pull rouge. Enfin, il y a quelqu'un qui porte un pull rouge. Et le fait que ce soit la seule personne, bah, ça le rendait identifiable. Et donc, c'est tout ce lien... par rapport à la donnée qu'il faut comprendre, qui peut faire que la donnée devient personnelle. Et donc, si je prends... Alors, en exemple, j'avais l'adresse de mon ancien bureau. Si je résidais à Arcueil, qui a un code postal, hein, j'étais dans le bâtiment F, 7e étage, LB, bureau 32. Bah, si vous prenez juste Arcueil, bâtiment F, 7e, de manière séparée, tout ça, ça ne vous donne pas d'indication sur qui je suis. Mais dès que vous allez commencer à croiser ces données, eh ben, ça va pointer sur un individu. Donc, autant on comprend la chose facile qui est de dire bah, un numéro de téléphone, une adresse IP, un nom, un prénom, un mail, etc. Ça peut être une donnée personnelle. Autant il est beaucoup plus difficile, par croisement, de se dire directement c'est une donnée personnelle ou c'est pas une donnée personnelle, parce qu'on peut tomber sur des individus. Alors là, on vient de caractériser ce qui est une donnée personnelle. Il nous faut maintenant aller sur ce qui est un traitement de données à caractère personnel. Alors Nico, toi qui bosses dans une grande entreprise qui fait beaucoup de traitements, est-ce que tu as une idée de ce que c'est un traitement de données personnelles?
Ouais, tu sais, moi, la donnée personnelle, c'est pas ma spécialité. Hein. J'y touche pas trop, donc...
Ouais, donc tu te mouilles pas. Eh ben, d'après la loi, un traitement de données à caractère personnel, c'est toute opération ou ensemble d'opérations effectuées, ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation, la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement, l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction. Bon, vous voyez que ça fait beaucoup de choses. Et donc, on peut considérer que tout un chacun qui un jour a touché un ordinateur a probablement, au moins en entreprise, effectué un traitement de données à caractère personnel. Et un fichier de données à caractère personnel, c'est tout ensemble structuré de données où il y aura des données personnelles dedans. Donc, ces traitements, ben, la loi dit vous êtes responsable de traitement, donc si vous faites ces traitements, dans ce cas-là, vous devenez un responsable. Et donc, on vous a confié des données, ben, si vous les manipulez, si vous faites n'importe quoi avec, peut y avoir des sanctions. Alors, ces sanctions, bon, dans les textes français et européens, jusqu'alors, c'était pas très élevé, c'était entre 3 et 5 ans de prison, entre 300 000 et 500 000 euros d'amende. Et surtout, à ma connaissance, ça n'a pas été appliqué, du moins vraiment sérieusement. Il n'y a personne qui a été en prison, de ce que je sache, mais il y a quand même eu des choses, de la vidéosurveillance par exemple, qui était placée dans les toilettes des dames dans une certaine entreprise. Bon, ben là, la CNIL a tapé fort, c'était pas tout à fait en rapport avec des données personnelles, mais en tout cas avec l'intimité des personnes. Mais jusqu'à présent, ça allait pas très loin. Quand le règlement européen est sorti le 25 mai 2016, il a porté l'amende jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise. Bon, il y a des divergences sur l'interprétation de ce que sera le 4%, s'il y a une limite à 20 millions d'euros ou si c'est vraiment 4% du chiffre d'affaires. Mais admettons qu'une entreprise ait un chiffre d'affaires de 40 milliards d'euros, eh bien l'amende sera portée à 1,6 milliard. Et là, vous voyez qu'on est très loin des 300 ou 500 000 euros et qu'on commence à avoir des sommes très intéressantes pour discuter. Donc, on verra si il y a un juge qui, à partir du 25 mai 2018, met en application ces choses-là et recherche les personnes qui ne prendraient pas soin des données personnelles. Toujours est-il que l'amende est impressionnante et que si on ne fait rien pour s'en protéger, on risque d'avoir...
Moi, je voulais rajouter quelque chose.
Alors, Frédéric, juste avant que tu rajoutes quelque chose, je voudrais... Oui. Tu viens de nous rejoindre. Donc, tu as assisté à, oui. à cette conférence. Tu t'appelles Frédéric Goutte. Est-ce que tu peux te présenter
oui,
très rapidement?
Tout à fait. Donc, je suis Frédéric Goutte. Donc, je suis consultant en sécurité DSI pour la société Nistec Édition. Et je suis aussi administrateur du Clusir Aquitaine. Voilà. Et donc, je voulais rajouter que la limitation à 20 millions d'euros n'était uniquement que pour les administrations et associations. C'est-à-dire que les administrations et associations ne sont pas dans les 4% du chiffre d'affaires puisqu'elles ne font pas de chiffre d'affaires. Donc les 20 millions d'euros ne sont pas pour les sociétés privées, mais bien pour les administrations et associations.
Ok. Et c'est à ce point-là que on en vient à parler d'anonymisation et de pseudonymisation. Parce que c'est un des moyens, et ça ne sera pas le seul, hein, il faut pas avoir d'illusion là-dessus. L'anonymisation, je le disais en introduction, c'est la perte du caractère identifiant. Et si je me fais voler des données en production, je l'ai dit tout à l'heure, l'anonymisation ne peut pas avoir lieu en production. Donc on voit bien que là, ça sera inopérant. Donc pour tout ce qui est hors production, alors si on prend la partie technique, ça va être pour des jeux de test, de la formation sur des données qui seraient similaires, mais pas issu de la production. Pour la business intelligence, par exemple, faire une étude d'usage d'un service prépayé sur une région donnée, eh bien, pour tous ces besoins-là, il n'y a pas besoin direct d'avoir accès à de vraies données. Donc, on a deux solutions pour ça, en tout cas, à ma connaissance, hein, y a peut-être d'autres personnes qui ont trouvé d'autres choses. C'est soit créer des jeux de données qui serait complètement bidon, soit prendre des données issues de la production et qui seraient anonymisées. Les deux solutions posent des difficultés. Créer des jeux de données, bah, ça veut dire qu'il faut bien maîtriser son générateur d'aléas tout en respectant les formats et en ayant l'intégralité du dictionnaire. Et de l'autre côté, anonymiser, ça veut dire qu'il faut être sûr de ne pas avoir de recoupement et que personne ne puisse revenir sur l'anonymisation que vous avez faite.
On est d'accord que...
Oui.
Enfin, on est d'accord que c'est un problème insoluble, parce que soit tu rends tes données vraiment complètement non identifiables, et à ce moment-là, elles ne te servent pas à grand-chose si tu veux faire des études dessus, soit tu laisses quand même des paramètres cohérents à l'intérieur, et du coup, comme l'a montré l'histoire, c'est quand même assez facile d'inverser une pseudonymisation, quoi. Enfin, je pense au cas de Netflix, par exemple, qui avait publié sa base de données de consultation de films en open data. Enfin, ils avaient publié un jeu de test en disant, voilà, on a enlevé les noms de tout le monde. Mais en fait, quand tu croisais avec IMDb, Allociné, etc., que tu regardais ce que les gens avaient mis comme notes sur les films et autres, t'arrivais à désanonymiser la base, enfin une bonne partie de la base.
Alors, c'est hyper intéressant ta remarque. Alors, je vous rappelle, hein, anonymiser, c'est plus personne ne sait comment on est passé de la donnée réelle à la donnée anonymisée, alors que la pseudonymisation, on a conservé la clé qui nous permet de faire l'inverse. Mais effectivement, il y a de nombreuses études qui montrent que lorsque l'on sait recouper deux fichiers qui auraient trois informations qui seraient identiques, avec une anonymisation différente, on perd ce caractère identifiant et on arrive à faire les recoupements. Donc, tu as raison, il faut être très prudent quand on anonymise et on ne peut pas faire ça normalement sur un bout de table, sauf pour quelques dizaines de données, mais si tu fais ça à l'échelle de Terra, ça devient très compliqué si d'un côté tu pars d'une anonymisation et puis tu as un autre fichier en clair qui te donne une autre information ailleurs qui te permet de recouper. De mémoire, il y a eu un problème, je crois que c'était dans l'état du Missouri, avec les bases de données d'un hôpital et les malades étaient aussi déclarés à la mairie et la mairie avait publié une base qui donnait pas tout, mais les pirates avaient réussi, ou les chercheurs avaient réussi à recroiser les données expurgées de l'hôpital en croisant avec la déclaration de la mairie. Et là, pour le coup, l'anonymisation ne servait à rien. Donc tu as tout à fait raison, c'est un des vrais problèmes de ces procédés-là. Et ça reste
complexe. Tu sais, il n'y a pas besoin d'aller chercher dans le Missouri, hein, parce que si tu regardes l'actualité récente, il y a le système national des données de santé qui est censé être mis en place, qui vient de se faire retoquer par la CNIL. Quand tu lis un peu la délibération, ils te disent qu'il y a une clé de pseudonymisation, mais qui n'a pas changé depuis 10 ans, qu'il y a 5000 personnes qui ont accès aux fichiers, dont certains de manière anonyme, parce qu'ils travaillent dans des labos de recherche de l'INSERM ou autre, donc on ne sait pas qui est sur la console. Ils disent que le système ne sera pas sécurisé avant 2019. Voilà.
Alors, la solution sur laquelle j'ai travaillé, c'est justement une solution où, entre autres, pour chaque anonymisation, chaque demande d'anonymisation, tu changes ta clé d'anonymisation. De manière à être sûr que pour un individu et une demande, il n'y ait pas deux fois la même clé qui puisse être reproduite. À l'exception près que si tu as besoin sur 6 mois par exemple d'avoir toujours le même test qui soit rejoué, que tu puisses le faire. Mais ces dispositions-là sont très précises. Et c'est toute l'étude qui a été faite à ce sujet. On a pris différents logiciels du marché. Je pense à TDM d'Informatica, je pense à la solution d'IBM, je pense à d'autres choses chez HP, etc. Donc j'ai tout un tas de constructeurs, entre autres issus du quadrant magique de Gartner, qui disaient pouvoir faire de l'anonymisation. Et on s'est aperçu que il y en avait pas tant que ça qui faisait vraiment de l'anonymisation. Tu en as qui faisaient de la création de jeux de données, tu en as qui étaient plus des ETL pour faire la transformation d'un langage vers un autre, etc. Mais tu avais très peu de progiciel qui était dédié à l'anonymisation. Donc on a fait notre étude et puis au final on a gardé un seul logiciel, mais le logiciel ne fait pas tout. Ce logiciel, il t'aide, mais si tu n'as pas la structure fonctionnelle derrière, et l'exemple que tu as donné, Nico, est très bon là-dessus, tu n'en feras rien. C'est-à-dire que c'est comme si tu laisses ton marteau sur ton bureau et que tu essayes d'enfoncer le clou avec ton poing.
Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'est-ce que vous faites des jeux de données après ?
Les jeux de données, ils nous servent... Nous, on a beaucoup de fournisseurs, hein, comme dans de nombreuses grandes entreprises. Les fournisseurs pouvaient potentiellement autrefois avoir accès à des données qui étaient pas bien anonymisées ou issues de la prod. Et l'enjeu, c'est de s'assurer qu'il n'y ait plus aucune donnée qui sorte de la production sans être anonymisée. Donc s'assurer que, les données que nous confient nos clients ne soient plus disponibles que dans l'endroit où elles sont censées être.
Du coup, les sous-traitants ou les fournisseurs ou autres, c'est quoi l'intérêt pour eux à la fin de récupérer de la donnée anonymisée ? Parce que soit ils ont besoin de la donnée, soit ils n'en ont pas besoin, mais si tu leur envoies de la donnée anonymisée, autant leur envoyer des random, quoi.
Non, parce que tu as besoin de garder le typage pour tes champs, par exemple, quand tu fais des tests.
Tout à fait.
Que ce soit des tests de charge, des tests de non-régression, des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Si tu envoies dev random, si tu fais du fuzzing, Bon, tu vas peut-être trouver des failles de sécurité en faisant crasher les applications, mais par contre, ça ne sera pas du tout fonctionnel pour les développeurs.
D'accord, mais en fait, dans ce qu'ils ont juste besoin, c'est d'un jeu de test pour faire un test de régression sur du développement logiciel ou des choses comme ça.
Ouais, mais tu serais très étonné du nombre de développeurs qui ne savent pas créer un jeu de test.
Tout à fait. Je dirais même que souvent, la maintenance se fait par des prestataires extérieurs. Et ils ont besoin des fois, pour reproduire les erreurs, bah justement de la base de données. Et donc, on a besoin d'un jeu de test anonymisé.
Mais qui va reproduire l'erreur, du coup, hein, parce que si l'erreur vient du fait qu'il y a... Il y a un gars qui a mis une diérèse dans son nom et qui a enregistré ça dans une base. Une fois que tu l'anonymises, la diérèse ou la CDI, elle peut disparaître, quoi.
En fait, l'anonymisation, c'est pas simplement remplacé par un jeu de données AZERTY prenant de A à Z en clavier ANSI. Ne faire que ça, ça serait une erreur. Donc, tu as plusieurs choses, hein. Tu as créé un hash ou un condensat, et là on voit bien que ça ne marche pas dans le cadre d'un typage. Tu as le mélange, où Nicolas Ruff et Jean-Philippe Gaulier deviendraient Nicolas Gaulier et Jean-Philippe Ruff, et ça donnerait un mélange explosif à mon avis. Alors, tu vas me dire, à deux personnes, ça change pas. À deux personnes, tu peux facilement retrouver. Par contre, si tu fais sur des milliers, voire des millions d'enregistrements, je te souhaite bon courage. Tu vas avoir le masquage. Tu prends par exemple un numéro de carte bleue ou un numéro de téléphone. Ton numéro de téléphone en France, c'est 10 chiffres qui vont de 0 à 9. Tu peux garder le 06 si c'est un mobile ou le 07, et puis tu peux remplacer le suivant par 1-1, 1-2, etc. comme tu veux, soit avec un masque fixe, soit avec un masque aléatoire. Par contre, un des pièges où il ne faut pas tomber, c'est de dire mon masque fixe, c'est XXX pour cacher. Parce que souvent, on voit ça, on pense à ça, on dit, c'est simple, hein, il suffit de remplacer tous les chiffres par 3x. Sauf que, je l'ai dit tout à l'heure, le typage, en général, doit être conservé. Et si tu mets des lettres dans un entier, par exemple, si tout va bien, ça devrait faire planter ton application.
Oui, mais à l'inverse, si tu remplaces par des numéros aléatoires, tu peux imaginer que dans une table, le numéro de téléphone, ça va être la clé primaire. Et que si tu génères des numéros au hasard, il va y avoir un doublon à un moment, et ça va faire planter ton application aussi.
Alors, effectivement, tu as cette question de quelles sont les clés et comment sont constitués les index. Donc les index, tu dois les régénérer, hein, puisque forcément tu ne fais pas d'export dessus, puisque tu as anonymisé tes données au passage. Sur la clé, soit tu as prévu ça dans ton application, c'est-à-dire que tes index de base ou tes index de table ne sont pas les numéros de téléphone, mais bien un numéro aléatoire ou incrémental, parce que sinon, ça te met le bazar. Et un numéro de téléphone, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une donnée personnelle directe.
Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, même en supposant que ton numéro de téléphone... soit pas une clé primaire dans ta table, tu peux quand même l'avoir déclaré comme unique. Et donc le moindre doublon va en fait arriver en prod, mais...
Ouais, mais ça on peut... Alors déjà en prod ça peut arriver, mais tu vas simplement dire non, c'est pas bon, au moment de l'enregistrement, ou en tout cas espérer que ça le fasse. Hein. Mais tu peux gérer ces choses-là. C'est pas un problème, puisque au moment de ton anonymisation, tu crées des règles. Donc tu vas dire par exemple, je veux créer un numéro aléatoire qui commencera par 06, et je veux m'assurer que ce numéro soit unique dans l'intégralité de ma table.
Oui, donc en fait tu le fais à la main, quoi.
Alors, tu crées la règle à la main, mais tu passes par ton usine centrale pour gérer le tout.
Du coup, est-ce que ces logiciels, ils te font vraiment gagner du temps si tu es quand même obligé de refaire une passe sur toutes les tables, enfin sur toutes les colonnes de tes bases de données pour vérifier quel est le type et définir des contraintes à la main sur l'unicité ou les caractères autorisés ?
Alors, si tu le fais pour 3,5 kg de données, ta question est légitime. Quand tu en traites plusieurs teras, voire quand on arrive au péta, oui, c'est vraiment utile. Parce que une fois que tu vas avoir fait ton traitement de base, eh bien tu peux appliquer différentes règles et garder ton schéma initial et tu n'auras plus jamais à refaire ça. Donc effectivement, c'est coûteux pour le premier traitement, mais pour les suivants, ça va te faire gagner énormément de temps.
Mais t'as vraiment des gens qui sont capables de développer des logiciels qui traitent du péta de données, parce que...
Alors nous, on a converti plusieurs teraoctets de données, on n'en est pas encore au péta, mais ça devrait venir. Oui, il y a des choses assez étonnantes, parce que on voit des services chez nous qui ont besoin de faire des tests, dits tests de palier. Donc ce sont des tests de plusieurs logiciels qui fonctionnent ensemble, parce que les données sont interconnectées. Donc ça fait des très grosses bases de données. Et chaque trimestre, par exemple, ils sont obligés de faire des nouveaux tests parce qu'il y a eu des évolutions. Et dans ces cas-là, c'est intéressant de traiter des grosses volumétries.
Ce que je veux dire, c'est quand tu transportes des tonnes de données. Alors, il y a la solution Amazon où maintenant, ils ont une offre. Ils viennent avec un 33 tonnes sur ton parking et ils rackent du RJ45 à gogo dans ton infra et ils siphonnent tout. Mais sinon, il y a quand même un problème... À transporter, à déplacer, à éditer des données quand tu commences au niveau du pétaoctet.
Alors, nous, on en sera, je pense en tout cas, on n'en sera jamais à avoir besoin de pétaoctet, même si on en a pour certains logiciels. On ne sera jamais à avoir le besoin d'anonymiser le pétaoctet. Tu as besoin d'anonymiser une partie du jeu de données, une partie suffisamment conséquente. Ça peut aller peut-être jusqu'à quelques teras. Mais tu as raison, la question du transport reste une question importante. Quand on a fait des migrations par le passé, on a mis de la donnée sur des disques durs chiffrés qu'on a fait transporter d'un bout à l'autre de Paris par coursier ou par taxi.
Oui, alors je ne pensais pas vraiment juste à la phase de transport, mais je pensais vraiment à toute la chaîne de production. C'est-à-dire, en fait, tes données, quelque part, elles sont vivantes. Donc, combien de temps ça prend, en fait, de faire l'extraction ? Combien de temps ça prend de faire un select dans ta base de données, de récupérer le jeu de test qui t'intéresse, de le passer dans la moulinette d'anonymisation ? Est-ce que tu risques pas d'avoir un problème d'incohérence parce qu'entre-temps, ta base, elle a changé ? Ensuite, combien de temps ça prend à écrire sur un support ? Combien de temps ça prend ? J'imagine qu'en plus, il y a du chiffrement au milieu. En fait, le truc, c'est là où je veux en venir, j'essaie de t'induire dans cette direction, c'est que si les gens travaillent sur les bases de prod directement quand ils développent, c'est parce que c'est pas toujours évident d'avoir un réplica à côté, à maintenir, à monter, et que ça prend du temps à tout point de vue, quoi.
Alors, tu as raison, on a la chance, sur les projets où je travaille en tout cas, d'avoir un certain nombre soit d'environnements de pré-prod, soit de backup offline, sur lequel on peut travailler pour la source et transférer les données. Parce que sinon, on se confronte effectivement au problème que tu évoques, en se disant, oui, mais est-ce que va pas y avoir un changement au moment où je prends ma donnée ? D'un autre côté, ce changement, par exemple, tu es client, tu changes ton numéro de téléphone, vu que je vais anonymiser les données juste derrière, pour moi, ça n'a pas vraiment d'incidence. Ce qui va avoir de l'incidence, c'est que le typage soit conservé, si on parle de jeu de test. Donc, ça, c'est pas très gênant. Et effectivement, la première anonymisation, donc je disais tout à l'heure qu'elle est coûteuse parce que il faut prendre connaissance du schéma, il faut créer les règles, il faut aussi créer une destination, hein, donc ça veut dire un schéma qui correspond au schéma initial, qu'on envoie vers une zone de test ou de développement, et qui hébergera la base anonymisée. Donc, si on se dit « je veux faire de l'anonymisation à la volée pour l'intégralité de mon SI, si ton SI fait plusieurs centaines d'applications et plusieurs pétaoctets de données », c'est illusoire. Par contre, si tu te dis « pour chacune de mes applications, je prends le temps de construire ou reconstruire le schéma, de connecter et au fur et à mesure, j'intègre ça dans mon SI », pour avoir des jeux de données totalement anonymisés, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait et c'est un choix qui semble fonctionner.
Là, tu parles de données qui sont évidemment facilement anonymisables et directement identifiables, comme un nom ou un numéro de téléphone. Mm-hmm. Mais si tu prends un log de serveur web, par exemple,
oui.
Tu veux l'envoyer à un gars qui te prétend pouvoir trouver des attaques sur ton serveur, etc.,
oui.
Avec sa technologie magique anti-APT, etc.
Oui.
Et en même temps, mettons, tu vas avoir des identifiants de session, enfin, peut-être pas des cookies, mais au moins des numéros de séquence, des channel ID TLS ou des choses comme ça.
Ouais.
Si tu les randomises complètement, du coup, son outil ne peut pas marcher, puisque chaque connexion vient avec un identifiant différent. Ouais. Ou par exemple, si tu randomises des adresses IP, du coup, chaque connexion vient depuis une adresse différente, dont certaines qui sont allouées à des black holes, donc effectivement, ça ne va pas marcher. D'un autre côté, si tu fais juste une permutation ou que tu appliques une transformation mathématique sur les données, mais que tu conserves la logique générale de la donnée, du coup, c'est quand même assez trivialement désanonymisable. Alors, pas forcément en stand-alone, mais je veux dire en consultant avec deux, trois informations extérieures.
Ouais. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que l'anonymisation ne peut pas marcher dans tous les cas. On parlait de business intelligence tout à l'heure ou de big data. Si tu fais de la business intelligence, je crois que je prenais une étude de carte prépayée sur une région. Si tu le fais comme cela, on voit bien que ça peut marcher parce que tu as besoin d'une étude régionale pour comprendre un peu les mouvements et le fonctionnement, l'usage, etc. Par contre, si tu reviens à cette même idée, je veux faire de la business intelligence et je veux faire un suivi de la consommation de mes clients pour pouvoir les récompenser après, eh bien là, tu ne pourras pas anonymiser, parce que si tu perds ce qui te relie à ton client, comment tu lui enverras sa récompense ou comment tu lui affectes sa récompense? Et dans ton cas de log, là, où tu te dis tout ce qui m'est vital, c'est toutes les données finalement qui me relient au client, ça veut dire que tu ne peux pas anonymiser directement. Donc, il y a eu le cas, de mémoire, ça doit être la CNIL et Médiamétrie, puisque Médiamétrie a un service qui fait de la mesure d'audience sur les sites web. Et donc, ils sont en mesure de recevoir un certain nombre d'URL ou de logs, comme tu le disais. Tu peux mettre en place une certaine anonymisation, mais si ce que tu cherches à mesurer, c'est régionalement comment tes utilisateurs naviguent sur tel ou tel site, il est évident que tu vas devoir garder une certaine cohérence dans tes logs. Et peut-être que si ta cohérence est trop fine, et ton anonymisation ne servira à rien. Donc il faut bien se dire, et c'est ce que je disais en début d'émission, que l'anonymisation est là pour rendre un service et faire perdre un caractère identifiant. Par contre, ce n'est pas une mesure suffisante de protection, et ce n'est pas une mesure qui répond à tout.
Ouais, je pense que dans n'importe quel cas de business intelligence, tu peux pas anonymiser parce que tu perds la structure, en fait. Enfin, en fait, tu peux pas désagréger le modèle Markov caché, n'est-ce pas, de tes données, quoi.
Nous, ce qu'on a vu sur les travaux qu'on a fait en business intelligence, c'est que grosso modo, si tu veux ne pas donner les données personnelles, la plus sûre des façons, c'est de supprimer cette partie de données. Parce que sinon, ça sert à rien. Si Nicolas Ruff devient Jean-Pierre Dubois, la business intelligence là-dessus va perdre de l'intérêt.
Oui, non, mais même sans parler de ça, je veux dire, si tu fais un exemple sur l'achat des cartes prépayées, T'as envie de savoir si c'est acheté plutôt à 8h du matin, à 11h ou à 20h, ça va pas être la même typologie de population. T'as envie de savoir si c'est acheté plutôt dans les centres-villes ou plutôt dans les grandes banlieues. T'as envie de savoir si c'est acheté plutôt en gare ou plutôt en petite boutique de quartier. Ouais, mais si ça, tu conserves toutes ces informations...
Ça tu peux le garder mettant une zone. Par exemple, au lieu de te dire les cartes sont achetées à 9h du matin, tu peux te dire les cartes sont achetées entre 7h30 et 9h30. Et donc, oui, tu vas perdre de la finesse. Par contre, tu vas donner une latitude qui fait que la personne qui serait ciblée, précisément, bah, tu n'arrives plus à la retrouver. Elle sera fondue avec d'autres personnes, quoi.
Oui, tu rajoutes du flou, mais en fait, si la superposition de tous les flous te donne plus qu'un seul individu, ça marche quand même.
C'est le problème de mon individu avec son pull rouge.
Et donc, en conclusion, JP,
oui.
qu'est-ce que tout cela t'amène à penser ?
La première chose, c'est que, au vu des différents échanges que j'ai eus, donc j'ai cité l'exemple de Patrick qui avait mis ça en place, il y a quelques boîtes en France, en tout cas, qui cherchent à travailler sur ces anonymisations, mais il n'y en a pas tant que ça, au final. Donc ça veut dire que, probablement, il y a beaucoup de données personnelles, ou de données de production, en tout cas, qui sont utilisées dans les développements, et ça fait un peu peur. Ça fait peur parce que on sait que c'est pas forcément toujours maîtrisé, et puis ça fait peur parce que ça veut dire que la loi de 78 de la CNIL n'est pas respectée. Donc ça, c'est embêtant.
Non, c'est vrai.
Ouais. Et que avec le règlement européen, ces choses-là vont devoir tendre à disparaître parce que la pseudonymisation est clairement inscrite dans le texte. Donc, deux choses. Un, il y a un joli marché qui va s'ouvrir. Deux, si la crypto et puis la protection des données sont des sujets qui vous intéressent, bah, allez-y parce qu'il y a beaucoup à faire. Là, on a à peine effleuré le sujet. Et on peut faire des choses vraiment très marrantes là-dessus.
Bon, eh bien, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir.